troisième temps de notre histoire urbaine des quartiers dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous interrogerons sur le rôle des paroisses au Moyen-Âge. Après vous avoir parlé de cité-jardins strasbourgeoises, c'était lundi avec Paul-André Rosenthal, et du Festival du Marais hier dans le documentaire de Victor Massé-Lépinay et de Véronique Samoïnov que vous pouvez écouter ou réécouter sur le très beau site qui vient d'être rénové de France Culture. Nous poursuivons notre histoire des quartiers en nous intéressant aux paroisses de la ville médiévale. Grâce à des textes qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui et qui ont été choisis par Victor Massé-Lépinay, nous allons nous demander comment la paroisse urbaine s'est installée dans la ville médiévale. Que représente-t-elle? Qui la dirige? Comment organise-t-elle la vie quotidienne et les fêtes exceptionnelles? Et avec deux historiens et historiennes spécialistes du Moyen-Âge, Dominique Yoniaprin, il est auteur entre autres, puisqu'il a écrit il y a quelque temps « La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge ». Elle est auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir au PUF, « Cité de Dieu, cité des hommes ». Et avec Elisabeth Crouzet-Pavant, auteur entre autres, puisque c'est un livre qui reparaît aux éditions Albin Michel, augmenté de beaucoup de regards différents depuis qu'il a été publié au début des années 90. Ça s'intitule « Le Moyen-Âge de Venise, des eaux salées au miracle de pierre ».
Devant Notre-Dame, au plus près, trois rues se dégorgeaient dans le parvis, vieille place à vieille maison. Sur le côté sud de cette place se penchait la façade ridée et rechignée de l'Hôtel-Dieu et son toit qui semble couvert de pustules et de verrues. Puis à droite, à gauche, à l'Orient, à l'Occident, dans cette enceinte si étroite pourtant de la cité, se dressaient les clochers de ces 21 églises, de toute date, de toute forme, de toute grandeur, depuis la basse et vermoulue campanule romane de Saint-Denis-du-Pas jusqu'aux fines aiguilles de Saint-Pierre-aux-Bœufs et de Saint-Landry. Derrière Notre-Dame se déroulait, au nord, le cloître avec ses galeries gothiques, au sud, le palais demi-roman de l'évêque, au levant, la pointe déserte du terrain. Quant à l'eau, du haut des tours de Notre-Dame, on ne la voyait guère des deux côtés de la cité. La Seine disparaissait sous les ponts sous les maisons. Et quand le regard passait ces ponts, quelques beaux hôtels faisaient çà et là de magnifiques saillies sur les greniers pittoresques de la rive gauche. Il y avait aussi force abbaye, d'une beauté plus dévote, d'une grandeur plus grave que les hôtels, mais non moins belle, non moins grande. Celle qui éveillait d'abord l'œil, c'était les Bernardins, avec leurs trois clochers. Sainte-Geneviève, dont la tour carrée qui existe encore, fait tant regretter le reste. La Sorbonne, moitié collège, moitié monastère, dont il survit une si admirable nef, le beau cloître quadrilatéral des Mathurins. Son voisin, le cloître de Saint-Benoît, les Cordeliers, avec leurs trois énormes pignons juxtaposés, les Augustins, dont la gracieuse aiguille faisait, après la tour de Nesle, la deuxième dentelure de ce côté de Paris, à partir de l'Occident.
Merci Nathalie Canoui pour ce premier texte choisi par vous, Victor Massé-Lépinay. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Notre-Dame de Paris, évidemment, de Victor Hugo. Pour débattre de la question de la paroisse au Moyen-Âge, on commence par un texte du 19e. On n'est pas rendu, comme on disait dans mon Poitou natal. Bonjour Elisabeth Crouzet-Pavant.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Dominique Yoniaprin.
Bonjour.
Puisqu'on démarre par l'idée reçue, pourrait-on dire, de ce qu'est une paroisse ou une ville ou un quartier, épiscopal médiéval, et pas n'importe quel quartier épiscopal, puisqu'il s'agit de Notre-Dame de Paris, Dominique Yoniaprin, mais néanmoins, ça nous dit quelque chose de l'enchevêtrement de ces rues et de comment ces églises sont collées ou accolées tout près de cette grande cathédrale.
Oui, ça nous dit d'abord ce que représente le Moyen-Âge dans notre imaginaire.
c'est-à-dire un temps de l'ordre, un temps où l'Église ordonne la société. D'un autre côté, ça suggère également une réalité dont on aura probablement à discuter au cours de cette émission, c'est la part de l'Église dans la structuration de la vie médiévale, puisque j'ai des en dehors du monde des idées auxquelles ce texte de Victor Hugo nous confronte, il y a également la réalité de la genèse de la vie médiévale et de l'importance à la fois de ce pôle que représente l'Église ou les différentes présences conventuelles, mais aussi la façon dont ces pôles structurent des communautés d'habitants.
Elisabeth Crouzet-Pavant, y a-t-il un Victor Hugo pour nous avoir raconté Saint-Marc de Venise comme Victor Hugo l'a fait pour Notre-Dame de Paris?
Il n'y a pas de Victor Hugo, mais ce qui m'a frappé en écoutant à nouveau ce texte de Victor Hugo, c'est que l'image qui ressurgit est une image qui, malgré tout, peut s'appliquer en effet à toute ville médiévale et particulièrement à Venise, c'est-à-dire la ville plane, la ville de l'horizontalité absolue, dans le cas de Venise, la ville au ras de l'eau, mais en même temps, le seul paysage des hauteurs est le paysage des campaniles, des clochers, des églises. Et arrivant à Venise, tout voyageur découvrait une ville finalement semblable à celle que décrit Victor Hugo, avec ce paysage jaillissant qui est celui des clochers.
Et puis aussi ce ramasser urbain, pourrait-on dire, autour des grandes villes.
Une trame urbaine très serrée. Extrêmement serrée, et dans le cas vénitien, une trame urbaine bien plus serrée que partout ailleurs. C'est ce que disent d'ailleurs les voyageurs arrivant même de Paris, qui disent « voilà une ville sans jardin, voilà une ville où il n'y a qu'un paysage de pierre, une ville qui a expulsé totalement la nature. Et de fait, les seuls jardins, les seuls arbres, pratiquement, sont sur les frontières, c'est-à-dire aux marges, sur la lagune. »
Alors Dominique Yonia-Prin, ça n'est pas évident, la place de cette église avec un grand E dans la ville médiévale. On à vous lire, aussi bien pour la Maison Dieu que pour le dernier livre qui vient de paraître, Cité de Dieu, Cité des Hommes, l'Église et l'architecture de la société. Il a fallu presque une révolution interne à l'Église pour se dire, tout compte fait, eh bien, il faut qu'on prenne place, qu'on prenne pied dans cet espace terrestre et qu'on y installe justement de quoi dire à nos paroissiens, puisqu'on va parler des paroisses, eh bien, Dieu est là au milieu de vous.
Oui, c'est toute l'aventure de l'Église dans la structuration de la société médiévale. Une Église qui, dans les premiers temps, se considère comme une communauté temporairement sur Terre et la volonté de dénier toute matérialité. Et puis une installation progressive dans l'histoire. Et une installation telle qu'on peut considérer que nos formes d'encadrement, les cadres de fixation de la population dans le long terme de l'Occident médiéval, se font en bonne partie autour des cadres ecclésiastiques, avec un total renversement des valeurs qui va aboutir au fait que l'Église, hein, ce pôle principal de structuration, est considéré à des époques qui méritent d'être discutées, à mes yeux, au moins à partir de l'époque carolingienne, comme étant l'élément nécessaire pour définir la communauté chrétienne. Il faut passer par le monument pour être membre de cette société qui est considérée comme une véritable fabrique sacramentelle sans laquelle il n'est pas possible d'appartenir à cette société.
Et ce monument, c'est d'abord ou parallèlement l'Église, mais l'Église en particulier, l'Église cathédrale, c'est-à-dire celle de l'évêque. Est-ce que cette question de la façon dont les évêques ont tenu, c'est ce qu'on croit lire, comprendre en vous lisant ou en lisant d'autres auteurs sur le Moyen-Âge, comment, d'une certaine façon, ce sont les évêques qui ont tenu la structure urbaine, pourrait-on dire, en remplaçant des structures défaillantes au point de vue civil, et qui, d'une certaine façon, autour de la cathédrale, ont réinventé la ville avant qu'elle ne devienne la grande ville médiévale, Dominique Yonia-Prin.
Oui, bien sûr, les évêques sont des intermédiaires très importants entre le monde romain, le monde antique, et puis le monde médiéval, dans la mesure où ils font partie de ces cadres qui assurent la continuité et la survie. Du coup, l'église cathédrale, l'église mère, va va à la fois permettre de reprendre le développement de la ville au cours du Moyen-Âge, et puis surtout il va permettre d'organiser la communauté aux dimensions du diocèse. Nous allons parler aujourd'hui de la paroisse, mais il y a tout le problème de la hiérarchie des cadres ecclésiastiques avec la place, bien sûr, du diocèse.
Et notons à ce point de notre discussion que Florian Mazel, médiéviste, va publier, c'est dans 2 mois, le 24 mars prochain au Seuil, L'évêque et le territoire, l'invention médiévale de l'espace autour de justement de cette question du diocèse. Victor Vassel-Lépinet.
Oui, Dominique Unia-Prat, je voulais justement commencer par vous interroger sur cette hiérarchie dans l'Église, cette hiérarchie dans la ville. On a parlé du diocèse, de la cathédrale. Il y a toute une vision divine, enfin peut-être eschatologique, de la communauté des chrétiens qui sont un seul corps avec une tête qui est le Christ. Dans l'Église, avec un petit E, ou l'Église territoriale, c'est pareil. Il y a la cathédrale qui est la tête d'un diocèse dont tous les fidèles sont le corps. Comment est-ce qu'au moment où les paroisses naissent, où on élève certaines chapelles ou certaines églises à la dignité, peut-être, ou au rang de paroisse, s'articulent les pouvoirs entre l'évêque et les curés, parce que je suppose que dans les premières paroisses, il y a les premiers curés. Dans le texte de Victor Hugo qu'on a vu, ce qui est frappant, c'est qu'il y a presque trop d'églises pour un si petit territoire, donc c'est immédiatement des querelles d'abord de pouvoir, de prérogatives.
Ce sont des querelles de chapelle.
Oui, alors il faut bien sûr concevoir ce monde comme un monde hiérarchisé. Et hiérarchisé, ça suppose toute une distribution des pouvoirs, voire des concurrences, puisque vous faites allusion à cette multiplication des églises sous le contrôle épiscopal dans le cadre des villes cathédrales, mais sans oublier également une très forte présence monastique. Puisque nous avons affaire, à partir du moment de la grande reprise urbaine, on va dire fin 11e, mais surtout courant 12e siècle, nous voyons arriver en ville des ordres monastiques qui étaient pour la plupart encore empreints de ruralité, voire des ordres érémitiques. En Italie, par exemple, le mouvement fort des Camaldules qui réintègre la ville. Donc, une concurrence très forte, bien sûr, dans le cadre de la pastorale, de la façon dont on va s'occuper des fidèles, mais à l'intérieur d'une hiérarchie qui peu à peu se territorialise et dont l'évêque est un des maillons principaux.
Et nous allons partir avec Nathalie Canoui pour Venise, avec un extrait que vous avez choisi, Victor Massé-Dépinay, de Sabellicus, l'histoire de Venise, en 1487. Un texte qui raconte la translation de Saint-Marc au 9e siècle, sur demande du doge. Le corps est volé à Alexandrie par deux marchands, puis transporté à Venise, caché dans un panier, sous de la viande de porc. Et ce texte nous est lu par Nathalie Canoui.
Lorsqu'ils prirent terre à Venise, toute la ville fut dans l'allégresse. On se disait de toutes parts que la présence du saint assurait la perpétuelle splendeur de la République, ce qui confirmait bien l'ancienne tradition connue de tout le monde, que saint Marc, durant sa vie, avait navigué sur la mer d'Aquilée et, ayant touché ces îles, avait eu une vision céleste qui lui avait prédit que ses eaux reposeraient un jour sur cette terre alors inhabitée. Ce ne furent que fêtes, chants, musique et prières dans toute la cité. On invoquait le saint pour qu'il prît sous sa protection la ville, qui désormais devait être éternelle. Quand le corps vénérable fut débarqué, tout le peuple alla au-devant de lui jusqu'au fort, avec le clergé qui chantait des hymnes et qui faisait fumer l'encens. On reçut ce noble présent avec toute la dévotion possible. Il fut déposé dans la chapelle ducale et le doge, qui mourut peu de temps après, laissa par son testament une somme pour bâtir une église à Saint-Marc.
Un extrait de l'histoire de Venise de Sabellicus, 1487, Victor Massé-Dépinay.
Oui, Elisabeth Prouzet-Pavant, j'ai choisi ce texte d'abord parce qu'il évoque Saint-Marc, donc Venise, ça, on va en parler de la place Saint-Marc, mais surtout parce qu'il évoque la fête, et que dans votre livre, quand vous partez à un moment donné à la recherche du quartier, un peu comme une enquête, qu'est-ce que le quartier de Venise, comment est-ce qu'on va le définir, vous prenez comme instrument d'investigation, ou comme outil d'investigation, des fêtes religieuses, les fêtes des Maries. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces fêtes des Maries, et pourquoi est-ce que c'est en étudiant ces fêtes que vous pouvez essayer de comprendre ce que c'était que les quartiers, les paroisses, peut-être les contradés, peut-être il faut faire un peu de terminologie, dans la vie des Vénitiens.
Oui, je crois que peut-être d'abord faut-il dire que le quartier, puisque c'est le thème de ces émissions, est pour moi un instrument tout à fait intéressant qui exerce, je crois, une sorte de fascination sur les historiens qui ont tendance à considérer que la ville médiévale aurait été, ou la ville ancienne de manière générale, aurait été structurée en quartiers comme en fait une sorte de confédération de villages. Or, le quartier est une réalité extraordinairement complexe parce qu'il y a bien entendu des unités administratives ou religieuses qui forment donc des quartiers, mais que les quartiers, ce sont aussi évidemment ces autres entités qui sont créées par les pratiques des hommes, par les pas des hommes et des femmes, par le rapport vécu à la ville. C'est-à-dire, la production de l'espace, elle se fait par de multiples acteurs et pas seulement par les acteurs officiels comme l'Église. Donc, en étudiant cette fête, ce que j'ai voulu voir, c'est le rapport vraiment vécu des habitants à un quartier et ici aux paroisses. Le cas vénitien est assez singulier parce que ce que l'on appelle les contrades, c'est-à-dire les unités administratives de base, ont pratiquement les mêmes frontières que les paroisses. C'est-à-dire qu'ici, la géographie administrative et la géographie religieuse se sont véritablement fondues.
Et alors, justement, c'est par les pas des Vénitiens et des Vénitiennes qu'on découvre ces quartiers, qu'on découvre ces limites de quartiers, mais aussi, on sait très bien qu'il n'y a pas de frontières, donc on va passer de l'autre côté. Comment peut-on définir presque la pratique de la ville de Venise par, justement, ces fêtes, par cette façon que les gens ont d'être dans leur quartier, dans leur contradé, mais également dans le quartier des autres, parce qu'évidemment, on circule à l'intérieur d'une ville comme Venise au XIIIe, XIVe, XVe siècle.
Oui, il y a ces doubles réalités de quartiers qui ont l'air d'être très marquées géographiquement, puisque très souvent, qu'est-ce qu'une contrade, qu'est-ce qu'une paroisse, c'est souvent un îlot, en fait, hein, puisque qu'est-ce que Venise, si ce n'est un archipel, des îlots qui ont été reliés les uns aux autres, mais en même temps, tout l'effort des pouvoirs publics a été de créer un système de communication qui permet, par les ponts, par les quais, le passage, la communication. Et alors se dessinent d'autres territoires qui sont les territoires justement vécus, qui ne sont plus les territoires officiels, ceux de la paroisse, et que l'on mesure, par exemple, par les testaments, les legs qui sont faits et qui nous font percevoir une autre géographie.
Alors, ce qu'on note en vous lisant, tous les deux d'ailleurs, c'est que ça n'est pas une partie de plaisir que de gérer une ville au Moyen-Âge, pas plus que ça doit l'être aujourd'hui pour un élu qui gère une ville moderne, parce qu'en fait, les acteurs sont nombreux. On a bien compris qu'il y avait les paroisses, que les paroisses avaient un rôle particulier, mais ces paroisses entre elles ont des relations parfois conflictuelles. Il y a à l'intérieur des paroisses des établissements monastiques, il y a des établissements laïques, il y a des ordres à partir du XIIIe siècle de frères mineurs qui s'installent aussi en plein milieu des villes. Enfin, il y a des contradictions potentielles dans la gestion de l'espace, et vous les notez, ces contradictions, à Venise par exemple.
Il y a une compétition permanente, et puisqu'on en a été au querelle, le cas vénitien au querelle de Chapelle, le cas, c'est-à-dire au querelle en fait pour capter les messes, pour capter les legs, pour capter les élections de sépulture. Le cas vénitien illustre cette compétition de manière admirable. Il y a, comme partout, des conflits entre les prêtres et les ordres monastiques, entre les prêtres, donc le clergé séculier, et les nouveaux ordres mendiants. Et dans le cas vénitien, l'un de ces conflits aboutit, je pense que c'est quand même un cas tout à fait exceptionnel en Occident, à ce que l'on construise un mur qui est non seulement attesté par les textes, mais que l'on voit dans le grand plan prospectif de Jacopo de Barbarie en 1500, un mur qui délimite vraiment l'aire d'influence de la paroisse et du couvent mendiant voisin. Donc ici, vraiment, le conflit est extraordinaire.
Oui, oui, parce que ça n'est pas si simple quand on est historien d'aujourd'hui, du 21e siècle, d'essayer de comprendre ce qu'est justement la frontière entre deux paroisses. Sont des points plutôt qu'une frontière suivie. Et l'exemple que vient de donner Elisabeth Crozet-Pavant est assez exceptionnel pour pouvoir être noté, mais la plupart du temps, qu'est-ce qui sépare telle frontière, telle paroisse de telle autre paroisse? Qu'est-ce qui sépare telle paroisse de telle autre institution monastique, par exemple? Ça n'est pas si clair, Dominique Yonia-Prin.
Mais c'est un processus de très très longue haleine. Les travaux récents qui ont été faits en archéologie de la paroisse, hein, je pense aux travaux de l'équipe de Tours, montre que finalement la fixation des frontières des paroisses médiévales est très tardive, que notre vision un petit peu
administrative.
Oui, notre vision un peu administrative d'une paroisse qui correspondrait à la commune moderne avec des frontières tangibles, en réalité et se met en place progressivement 12e, 13e siècle avec des intrications de paroisses les unes dans les autres qui montrent à quel point nous sommes dans des systèmes de communautés extrêmement complexes et diverses.
Victor Massé-Dépinay.
Oui, les limites administratives sont très floues, mais le vécu, pourrait-on dire, des habitants existe. Elisabeth Crouzet-Pavant, vous avez évoqué les testaments, justement, c'est une source pour voir l'attachement des gens, peut-être, à leur paroisse. Ils lèguent leur argent à telle ou telle paroisse. Est-ce que c'est à la leur? Est-ce que c'est à celle d'à côté? Est-ce qu'on va à la messe chez soi ou est-ce qu'on va plus loin? Et alors vous évoquez en particulier une contrada de San Bernarda, je crois, où vous avez étudié tous ces testaments. Qu'est-ce qu'on peut voir de la façon dont ces paroisses existent dans l'imaginaire des habitants?
Oui, je crois que ce qui est intéressant dans un cas comme le cas vénitien, c'est le fait qu'au cours des derniers siècles du Moyen-Âge, il y a une sorte d'évolution qui marque la déprise du cadre paroissial. Bon. C'est-à-dire que on continue à aller à la messe le dimanche, à la paroisse. D'ailleurs, peut-être pas forcément par attachement au prêtre, mais parce que le prêtre lit toute une série de choses tout à fait intéressantes, comme la liste des débiteurs, la liste de ceux qui n'ont pas payé les impôts, parce que lorsqu'on sort de l'église, on peut aussi aller boire à la taverne, etc., avec ses compagnons. Mais dans le même temps, au moins pour les plus riches et progressivement, comme toujours pour les phénomènes sociaux, par capillarité, imitation, concurrence, etc., c'est un phénomène qui se répand. La plupart des grandes donations, des grands legs, etc., se font évidemment à d'autres établissements ecclésiastiques, et en particulier, ici comme partout ailleurs, aux grands couvents mendiants qui captent à la fin du Moyen-Âge l'essentiel et des élections de sépulture et des legs pieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit apparaître... Alors certains disent le polycentrisme de la ville. Pour moi, c'est moins un polycentrisme qu'en fait l'unité sacrale de la ville qui apparaît dans ces testaments à partir du moment où un testateur très éloigné à des dizaines de paroisses lègue finalement à un monastère ou à un couvent à l'autre bout de la ville... une partie de ses livres, des parements d'hôtel, etc., c'est l'unité sacrale de la ville qui apparaît. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment penser par imbrication, par emboîtement, hein, c'est-à-dire que le cadre paroissial demeure, mais que d'autres cadres sont venus s'emboîter sur ce cadre-là.
Les géographes contemporains nous ont expliqué comment nous vivions nous-mêmes dans des multiplicités de territoires, territoire du week-end, territoire de la semaine, territoire du travail, territoire des loisirs. Et effectivement, ça peut nous servir à comprendre comment un homme ou une femme du Moyen-Âge pouvait circuler et appartenir à plusieurs territoires dans la même ville, en l'occurrence Dominique Yonia-Prin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec la thèse de l'unité sacrale de la ville qui subsume toutes ces questions de division en quartiers et en paroisses. La ville médiévale, c'est le lieu des mises en scène unitaires à travers des fêtes de référence. On a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de fêtes vénitiennes.
Mais on pourrait parler du palio de Sienne ou
voilà.
Des choses comme ça.
Et y a une
mais
fête...
qui met en scène l'unité et la diversité à la fois.
Absolument, la diversité, l'unité, le contrôle de la ville sur son environnement immédiat, c'est-à-dire sur le contado, et puis cette fête tout à fait extraordinaire qui est l'expression même du corps urbain au Moyen-Âge qui émerge, qui s'impose progressivement au XIVe siècle, qui est le Corpus Christi. C'est-à-dire, après une longue genèse, le Corpus Christi, c'est-à-dire la manifestation de l'Eucharistie dans l'espace urbain, et qui est en fait une fête assumée par les corps urbains eux-mêmes.
C'est d'ailleurs une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une addition d'espace privé, privé au sens où la paroisse serait un espace privé pour ses paroissiens, d'une certaine façon, cette ville médiévale, ou est-ce que déjà il y a ce qu'Habermas peut décrire comme étant un espace public? Quel est-il, cet espace public? Quels sont les endroits justement où on peut se retrouver, où on n'appartienne pas, par exemple, à la paroisse d'un tel ou à la paroisse d'un tel, etc. Dominique Yonner-Prin.
Écoutez, je dirais les deux à la fois. Espace privé, oui, dans la mesure où on voit bien que dans la seconde moitié du Moyen-Âge, d'une part, l'Église paroissiale se privatise avec la constitution d'espaces privés investis par les familles, hein, dans le cadre des fondations. D'un autre côté, quelque chose de l'Église paroissiale se privatise dans les domiciles privés, qui sont traités dans la pastorale comme des espaces, j'allais dire, domestiques qu'il faut instaurer aux dimensions de l'Église, hein, avec tout un tas de phénomènes de privatisation des objets d'Église. Et d'un autre côté, la constitution de ce qu'on peut appeler, avec Habermas, un espace public, c'est-à-dire un espace de communication. C'est-à-dire un endroit avec des lieux de référence.
Et de lieux de débat aussi.
Et de lieux de débat, exactement.
La question de la production d'espace public dans la ville est absolument fondamentale. Et cet espace public, il faut d'abord le comprendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire au sens le plus concret du terme, un espace public dans la ville médiévale, c'est d'abord un espace qui est ouvert à tous. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existait en parallèle des espaces privés, c'est-à-dire des espaces qui étaient clos, y compris des espaces de communication qui étaient tenus par les grandes familles, que ces grandes familles, les textes sont extraordinaires, disent « je peux les ouvrir ou les fermer à mes ennemis ». Hein ? Donc la production d'espace public, le fait que l'on désenclave la ville, que l'on dégage les places, que l'on ouvre les rues, est un phénomène capital. Et c'est vrai qu'ensuite, dans l'espace public, au sens premier du terme, on tient des comportements qui sont ceux de l'espace public, le débat, mais pas seulement. C'est-à-dire, on est tenu aussi de se comporter d'une certaine manière dans l'espace public. Il y a toute une production normative qui s'intéresse à ces comportements dans l'espace public.
Oui, une des questions qu'on peut se poser, Dominique Yonner-Prin, c'est comment, en fait, et si, d'ailleurs, on passe d'une référence ou d'un référent religieux à autre chose. Vous nous expliquez bien, par exemple, et je crois que Patrick Boucheron y avait travaillé avant vous, comment la question de la place de la fabrique dans les cathédrales, c'est-à-dire cette institution qui doit gérer la construction, puis ensuite la gestion quotidienne de la cathédrale, va finir par faire des groupes de paroissiens qui vont être bientôt peut-être des groupes de citoyens qui vont finir par devenir des citoyens séparés, plus ou moins, même si la religiosité et le christianisme est toujours là, séparés de la question purement religieuse, Dominique Yonner-Prin.
Oui, il faut pas considérer l'Église comme étant un bloc monolithique. L'Église, c'est aussi les laïcs et les pratiques religieuses des laïcs. Et ce que donne à voir très largement la ville médiévale, et tout spécialement la ville italienne qu'Elisabeth étudie, que Boucheron également étudie, c'est la façon dont se déploie progressivement ce que les historiens actuellement qualifient de religion civique, hein, qu'on a appelé de
la chrétienté citoyenne.
La chrétienté citoyenne, c'est-à-dire la façon dont les communautés d'habitants, qui sont d'abord des communautés paroissiales, se prennent en charge, et elles se prennent en charge à partir de la fabrique, c'est-à-dire la gestion
de l'église. Se choisissent, s'élisent, etc., etc.
Absolument, et font vivre l'Église au quotidien. Et ce qui est évidemment très très intéressant, bien documenté par le monde italien, c'est la façon dont les pratiques d'autogouvernement au niveau des fabriques vont permettre le développement des pratiques d'autogouvernement au niveau des villes elles-mêmes.
Oui, c'est toute cette question. Est-ce que la citoyenneté mise en place dans les cités italiennes que vous connaissez bien, Elisabeth Crouzet-Pavant, vient justement de ce glissement progressif du sens, ou est-ce que c'est parallèle, ça marche ensemble?
Moi, je pense que c'est plutôt parallèle, parce que lorsque l'on étudie vraiment le tout début des institutions, enfin de ce qui va des associations qui vont donner naissance aux institutions communales, on découvre des associations de citoyens qui n'ont pas forcément affaire avec l'Église. Je pense qu'il y a là un débat entre les historiens, et donc je ne crois pas du tout que dans le cas italien tout dérive justement des conseils de fabrique ou de ces associations qui seraient réunies pour gérer la paroisse ou pour gérer l'Église. En outre, dans le cas vénitien qui est un peu particulier, puisque là on a l'héritage byzantin et donc on est en fait dans un monde politique qui est quand même assez divers, il y a une appropriation très précoce, et le texte, la translation de Saint-Marc le rappelait, une appropriation très précoce par l'État, entre guillemets, des valeurs sacrales. Hein. Donc, on est ici dans un monde un peu différent.
Victor Massé de Lépiné.
Oui, les citoyens s'organisent. Tout ne vient pas de l'Église, enfin, tout ne descend pas de la hiérarchie ecclésiastique. Est-ce que, finalement, c'est l'Église qui s'adapte un peu aussi à ce que la ville devient et j'ai une question en particulier, comment est-ce qu'à partir du XIIIe, XIVe siècle, qu'est-ce qui préside au choix de la création d'une paroisse ici ou là, parmi la multitude de chapelles, d'églises, etc. Est-ce qu'on dit on va faire une paroisse pour ces gens qui sont regroupés dans ce quartier, ça devient la paroisse de tel ou tel corps de métier. Est-ce qu'on fait une paroisse comment est-ce qu'on décide de faire une paroisse, de créer une paroisse ici ou là?
Bien, la question de l'Église et de la ville, c'est l'objet d'influence réciproque. L'Église va marquer la ville dans sa morphogenèse, incontestablement, et dans sa conception unitaire sacrale. Mais d'un autre côté, la ville transforme l'Église. Donc il faut bien envisager cette question comme une dynamique, et une dynamique telle que, idéalement, la façon dont on conçoit la société va peu à peu glisser d'un référent qui est le référent monumental ecclésial à un autre référent, un autre contenant qui est celui de la ville dans une dialectique ville-cité qui nous amène à des considérations d'élaboration politique. Alors pour revenir à la question des décisions de création paroissiale, c'est tout le problème de l'organisation des pouvoirs au Moyen-Âge et spécifiquement là dans la ville médiévale. Les autorités ecclésiastiques sont porteuses de pouvoir, entre autres. Et ce sont aux origines des époques qui nous intéressent, le moment du redéveloppement démographique dans l'Occident médiéval, confins des XIe, XIIe siècles, ce sont des décisions seigneuriales. Parmi eux, bien sûr, des évêques, par endroits qui sont détenteurs de la puissance comtale, c'est une décision du pouvoir politique.
Vous dites que la seigneurie enfante la ville. Enfin, certains historiens de
la seigneurie enfante la ville, bien évidemment. Oui.
Et vous citez un Guillaume d'Auvergne, donc qui est mort en 1249, et qui dit que la ville, c'est un espace sacramentel hiérarchisé en trois pôles, dit-il. Les religieux qui sont au centre de la cité, vivante incarnation du temple, parce qu'il faut toujours se souvenir que, effectivement, il y a ce regard sur la cité céleste, pourrait-on dire, la Jérusalem céleste. Ensuite, les clercs séculiers qui sont aux portes et aux murs, et puis les laïcs qui sont placés dans les faubourgs au-delà des remparts. C'est comme ça, en tout cas, que lui, Guillaume d'Auvergne, voit la conception en cercle concentrique, pourrait-on dire, d'une ville religieuse médiévale.
Oui, j'ai repris l'image d'un texte de Guillaume d'Auvergne qui a été célébré en son temps par Jacques Le Goff, qui est très intéressant du point de vue des constructions idéologiques, hein, bien évidemment. Là, nous sommes dans de la reconstruction. Tout à fait dans la dynamique de la polarité médiévale et de l'organisation idéale de la ville sous une forme radioconcentrique, avec au centre l'autel, un premier cercle qui est l'église, ensuite le cimetière, la paroisse, la constitution avec les murs et les faubourgs. Bref, l'adaptation de la société à ce cadre-là, et donc une sacralité principale qui est, bien sûr, au centre et qui est cléricale.
Et comment fait-on, justement, quand il y a des tensions? Je sais bien que Venise est une ville qui a la réputation d'avoir été une ville sans tension, même si on sait, en vous lisant et en ayant lu d'autres historiennes sur ce sujet, que ça n'est pas exact, en l'occurrence. Elisabeth Crouzet Pavant, mais comment fait-on, justement, quand il y a des tensions, et des tensions qui sont successives, qui permettent peut-être de percevoir le passage de relais d'un pouvoir à un autre, d'un pouvoir religieux à un pouvoir civil, la prise en main par un nouveau pouvoir de la gestion de la cité, par exemple.
Oui, mais le cas vénitien diverge, parce que justement, là, nous sommes dans le cas d'une ville qui n'est pas née d'une seigneurie.
Voilà.
Ici, nous sommes dans le cas d'une ville tardive.
Qui se crée à partir de quoi
le site actuel, Rialto Venise, c'est le début du 9e siècle.
C'est ça.
L'installation dans les lagunes, évidemment, est antérieure. Et surtout, c'est l'invasion lombarde qui détermine un peuplement un peu plus massif des lagunes. Donc, mais début du 9e siècle, donc une ville qui ne naît pas d'une seigneurie et une ville qui n'a pas non plus un plan radioconcentrique, qui échappe au modèle qui vient d'être...
En fait, c'est pour ça que vous êtes intéressé à Venise, c'est parce qu'elle ressemble à aucune autre, c'est cela.
Ce qui est intéressant dans cette ville, c'est qu'elle ne ressemble à aucune autre, tout en ayant beaucoup de traits communs avec les autres. Et puis, pas seulement. Tout de même, je crois que vous rappeliez une ville sans tension. Il me semble qu'à l'heure où on ne cesse de s'interroger sur les possibilités du vivre ensemble, voilà tout de même une ville qui a résisté au temps, qui dure sans tomber dans le mythe, qui dure des siècles et sans convulsion majeure. Une ville aussi qui a cela...
La seule révolte notée, c'est une révolte de boules de neige, comme l'écrit Kréler juste
de la rivière. Oui, et encore, c'est pas du tout la même chose, puisque là, en fait, on est dans la lagune, c'est-à-dire dans les vaincus de l'histoire.
Ouais.
Même si Murano est un cas plus complexe que le reste de la lagune. Et bon, donc une ville dont le destin diverge, et c'est en cela qu'il est évidemment intéressant, destin diverge, mais en même temps riche d'enseignements, je pense.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, le destin et la constitution, l'origine diverge, mais l'idéal, la tension vers une centralité, d'abord une centralisation, mais vers une tension peut-être mythique ou eschatologique de la cité idéale, est présente à Venise et même très fortement présente.
Pour moi, c'est fondamental. Et le texte relatant la translation supposée de Samar...
Un texte de la fin du 15e, il faut le noter.
Le rappelait bien. Oui, parce qu'en fait, personne ne sait si Samar et les reliques sont vraiment ou non arrivées à Venise. L'important, c'est que tout le monde le croit.
Ouais.
Donc, comme toujours. Mais ce qui est évidemment capital, c'est que la ville se pense comme... prédestinée. La ville est providentielle et cette tension eschatologique est fondamentale dans l'histoire de Venise, parce que quand même il faut bien comprendre que la ville est installée dans un site plus que tout autre hostile, et que on ne peut pas comprendre cette espèce de lutte acharnée séculaire et qui se poursuit toujours aujourd'hui contre les eaux sans comprendre aussi que les Vénitiens ont eu comme en quelque sorte ressort fondamental l'idée que ce site leur avait été donné par Dieu.
Il y a tout de même quelque chose de très particulier, Dominique Ionia-Prince, c'est la multiplication de ces confréries qu'on voit au fur et à mesure du Moyen-Âge devenir de plus en plus nombreuses, jusqu'à occuper l'espace public de façon quasi permanente, des centaines parfois de confréries dans certaines villes à la fin du Moyen-Âge. Ces confréries qui parcourent en tous sens la ville, faisant des processions, se montrant, étant très présentes, et qui d'une certaine façon donnent lieu à une sorte de bourdonnement, de bouillonnement qui est très loin de l'idée d'une église unique et originelle qui marcherait la même pas.
Oui, il faut concevoir la vie médiévale dans sa composition ecclésiale, dans une grande diversité, dans la diversité.
Et de plus en plus au fur et à mesure du temps ou pas?
Oui, puisque le mouvement confraternel, c'est-à-dire cette façon de concevoir la communauté d'un point de vue non pas vertical mais horizontal, c'est un mouvement confraternel qui est très très fort. Et vous savez, dans certaines régions, un petit peu jusqu'à nos jours, allez voir la vitalité des confréries en Corse. Donc, nous pouvons effectivement bien imaginer ce bourdonnement de la ville médiévale à travers les activités des confréries.
Qui sont concurrentes, en même temps qui marchent ensemble, parce qu'elles sont toutes des confréries religieuses et chrétiennes. Donc, mais il y a effectivement à la fois cette diversité et cette unité.
Il y a la diversité des familles qui s'expriment au pluriel, mais qui se subsument dans l'unité sacrale qu'est la ville.
Et vous travaillez beaucoup aussi sur la façon dont chacun se réapproprie dans son espace privé, et ça c'est plutôt vers la fin du Moyen-Âge justement, Dominique Yonien-Prat, l'Église comme modèle, pourrait-on dire, cette Église qui est le cœur de la paroisse ou la cathédrale, et d'une certaine façon fait de son chez-soi une sorte de petite Église en miniature. On y fait des autels, on y fait construire des autels en miniature. On récupère ses premières façons de copier des images saintes, par exemple, pour pouvoir les avoir chez soi. Et d'une certaine façon, considérer son propre logis comme étant une petite Église à soi.
Oui, une petite église. Alors le thème est ancien, mais particulièrement développé à la fin du Moyen-Âge, puisqu'on voit des pratiques de piété avec la privatisation des images et des divers objets de culte, hein, même s'il n'y a pas véritablement de culte, sauf les chapelles privées, à un certain niveau de la société. Mais c'est un phénomène qui est ancien et qui tient à un ressort profond du christianisme. C'est une dimension personnelle. C'est-à-dire que, au fond, l'Église est un phénomène communautaire, mais c'est une communion de personnes. Et il y a toujours ce ressort de l'intériorisation de l'Église. L'individu comme une petite Église et son domicile comme une petite Église.
Et vous avez choisi pour cette émission où les textes nous sont lus par Nathalie Canoui, un texte de la fin du Moyen-Âge, en tout cas la fin du Moyen-Âge classique tel qu'on l'entend traditionnellement. C'est un texte de Luther, Sermon sur la Seine et sur les confréries, lu par Nathalie Canoui.
La signification du sacrement et ce qu'il opère, c'est la communion de tous les saints. Le Christ forme avec tous les saints un corps spirituel, de la même manière que la population d'une cité forme une communauté et un corps, et que tous les bourgeois sont membres les uns des autres et de la cité entière. Ainsi, tous les saints sont membres du Christ et de l'Église, qui est la cité spirituelle et éternelle de Dieu. Et celui qui est accueilli dans cette cité est déclaré accueilli au sein de la communauté des saints et incorporé au corps spirituel du Christ dont il devient un membre. En conséquence, recevoir ce sacrement dans le pain et le vin, ce n'est rien d'autre que recevoir le signe certain de cette communion et incorporation au Christ et à tous les saints. C'est comme si on donnait à un bourgeois un signe, un écrit ou une autre marque distinctive, lui certifiant qu'il possède désormais la bourgeoisie de cette cité et qu'il est membre de cette communauté.
Oui, parce que entre ces deux réformes sur lesquelles vous avez travaillé pour Cité de Dieu et Cité des Hommes, Dominique Yonien-Prat, la réforme grégorienne, celle du XIe-XIIe siècle, et la réforme avec un grand R, celle de Luther et de Calvin, eh bien, effectivement, ces villes ont cru, et une classe, la classe des bourgeois de ville, s'est installée progressivement, les marchands, etc., qui ont peut-être changé les choses, mais qui ont permis à Luther de faire cette métaphore et ce sermon sur la Seine et sur les confréries.
Oui, le texte de Luther nous permet de bien mesurer l'évolution des référents pour pouvoir imaginer la société et cette montée en valeur de la ville. L'Église a longtemps été le référent, le contenant essentiel pour penser l'intégration de la société. À un moment donné, et ce renversement de valeur se fait pour moi entre les deux réformes, hein, réforme grégorienne, réforme de l'Église des 11e, 12e, et puis la réforme de Luther, c'est la ville qui monte en puissance comme étant le contenant nécessaire pour pouvoir penser la société sous la forme de la cité. Et le texte de Luther est de ce point de vue merveilleux, puisqu'il nous montre que la meilleure façon d'imaginer la communauté des saints à travers l'acte eucharistique, c'est de se référer à la communauté d'habitants d'une ville et les bourgeois possesseurs de leur signe d'appartenance.
Elisabeth Crouzet-Pavant, vous avez travaillé sur Venise jusqu'à à peu près cette période, mais la différence c'est que Venise ne deviendra pas une ville réformée, loin de là, et qu'elle continuera dans la religion catholique traditionnelle, la religion chrétienne des origines, avant la réforme. Qu'est-ce que ça change justement dans l'ordre de cette ville que de ne pas avoir à subir ou à vivre cette dissension qu'il y aura dans beaucoup de villes d'Europe, et en particulier toutes les villes de l'Europe du Nord, avec une autre peut-être conception de la ville, qui est la ville conçue par Luther, les luthériens, Calvin et les calvinistes.
Il y a eu malgré tout quelques dissensions religieuses dans l'histoire du XVIe siècle vénitien. Mais il est certain que demeure cette formidable unité sacrale et demeure à Venise l'attachement à ce culte du saint patron, à ce culte de Saint-Marc, avec vraiment cette identification absolue, hein, si en quelque sorte, de l'état du saint patron. Ce qui fait que même à Venise, on n'a pas évoqué ce point en évoquant la cathédrale, mais c'est quand même une des rares villes d'Occident où la cathédrale n'est pas dans une position centrale, où la cathédrale est totalement excentrée, vraiment une des extrémités de Venise, parce que au centre, qu'y a-t-il ? La basilique et les reliques de Saint-Marc. Écoutez, j'étais il y a quelques jours à Venise, c'était le tout début du carnaval qui commence très tôt cette année, et c'était le carnaval commençait dans un des quartiers de Venise, et il y avait pratiquement là que des Vénitiens, parce que les cérémonies, les célébrations touristiques ne sont pas encore commencées. L'ouverture des cérémonies a été la suivante, et viva Venezia, vive Venise, et viva San Marco. Et la foule a repris en chœur ce vive Saint-Marc. Donc, bien sûr, là, on est au niveau de l'imaginaire, hein, plus que de bien la sûr. Religion. Mais tout de même, on voit là comment il y a eu une sorte de ciment qui demeure.
Dominique Yonnerpra, tout de même, cette fin de Moyen-Âge, puisque vous allez jusqu'à la réforme dans votre livre Cité de Dieu, Cité des Hommes, l'Église et l'architecture de la société, paru au PUF, cette réforme avec un grand R va profondément changer peut-être la façon dont on perçoit ce qu'est une ville chrétienne. Il y a d'autres façons, d'autres images de ce qu'est l'Église d'un côté, le temple de l'autre, qui vont évidemment façonner un autre imaginaire très différent de celui qui a perduré, même s'il a beaucoup évolué, on a compris en vous écoutant tous les deux, entre le XIIe et le XVe siècle.
Oui, le premier changement important en structure, c'est le fait que l'Église est invisible. La vraie Église est invisible. Ouais. Moyennant quoi, la présence ecclésiale sur le plan monumental et sur le plan des structures d'encadrement va tendre à s'effacer. Une ville réformée, dans toutes les, c'est-à-dire dans toutes les acceptions du terme, hein, selon
on enlève les décorations.
Selon, finalement, c'est le prolongement d'un mouvement médiéval qui est celui de l'autogouvernement par les fidèles eux-mêmes, et le fait que les structures ecclésiales vont être remplacées par des structures municipales. Alors tout ça, bien sûr, est un peu général et mériterait d'être nuancé cas par cas, mais au fond, la réforme va venir interrompre un mouvement séculaire qui est celui d'une visibilité ecclésiale comme étant une visibilité à travers des structures d'appartenance.
Et donc, un remplacement de ce monument qu'est l'église ou la cathédrale par autre chose, d'une certaine façon.
Par autre chose.
Par un effacement, comme vous le dites.
Oui, et à commencer par la neutralisation du temple. Le temple, au fond, sera invisible dans l'espace et n'est pas du tout, j'ai réinvesti, des signes de la sacralité dont était porteur l'Église.
Elisabeth Crouzet-Pavant.
Alors que dans notre espace italien, au contraire, la création d'Églises va continuer avec une sursacralisation de l'espace qui va se poursuivre tout au long du
après le Concile de Trente en particulier.
En particulier bien sûr.
Et avec effectivement des décorations, et puis la naissance d'un art effectivement extrêmement ostensible, ostentatoire, pourrait-on dire, dans l'espace public, ces façades qu'on n'oublie pas effectivement du baroque italien, qu'il soit napolitain ou d'autres cités de l'Italie de l'époque. Dominique Cugnapra, pour conclure, votre livre se veut un livre théorique. Il est le pendant du premier livre que vous aviez consacré à cette question-là, qui était donc La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge. Vous êtes passé de l'Église elle-même à la cité autour de l'Église. Vous allez aller jusqu'où? Parce que tout compte fait, on peut peut-être encore élargir le territoire.
Écoutez, moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est d'essayer de comprendre comment s'est formée la tradition sociologique occidentale. C'est-à-dire la façon dont se sont élaborés les discours sur la société. Il est évident que le premier grand discours prégnant, c'est le discours d'Église. Mmh. La question était de savoir si la notion d'architecture de la société avait encore un sens au moment où la référence à l'Église comme structure d'accompagnement tend à disparaître. Et nous rentrions dans une séquence qui est la séquence de la ville, de la dialectique entre ville et cité. Et effectivement, peut s'éprouver dans ce renouvellement médiéval de la seconde moitié du Moyen-Âge cette notion d'architecture de la société qui reste prégnante à travers un héritage aristotélicien. Et puis, on peut considérer que cette référence à construire la société va nous suivre jusqu'à maintenant. Mais c'est tout le problème du renouvellement de ce discours, de cet ancien discours religieux, par la naissance d'un discours sur l'urbanisme, qui est un discours médiéval, puisque les premières séquences sont de la seconde moitié du 15e siècle avec le grand Alberti.
Ce sont les Italiens qui inventent l'urbanisme, même si le mot a été inventé au 19e siècle, expliquez-vous. Merci à vous, Dominique Cugnapra. Je rappelle que La Cité des Dieux, Cité des Hommes, l'Église et l'architecture de la société, publiée aux éditions PUF, que vous aviez publié auparavant à La Maison Dieu, et puis pour tous ceux qui vont se rendre peut-être au Carnaval de Venise ou pas d'ailleurs, eh bien s'ils veulent avoir un bon livre qui leur permettra de comprendre ce qu'est la construction de cet espace urbain vénitien, c'est votre thèse de doctorat d'État que vous avez republiée, retravaillée. Vous avez énormément retravaillé, Elisabeth Crozet-Pavant ?
Oui, retravaillée en y intégrant à la fois la recherche récente, internationale, aussi mes propres recherches. Donc c'est un nouveau livre en quelque sorte.
Un nouveau livre publié chez Albin Michel, qu'il faut saluer pour cette initiative, puisque votre livre précédent, celui qui était donc l'issue de votre thèse, était épuisé depuis longtemps. Il avait été publié aux éditions de l'École française de Rome. Merci à tous les deux. Merci à Nathalie Canoui de nous avoir accompagnés et lu les textes. Merci à vous, Victor Massé de Lépiné. On se retrouve demain pour évoquer encore une autre histoire des quartiers et peut-être même théoriser.
Voilà, théoriser un peu. Est-ce que le quartier est une notion pertinente pour les historiens.
Et en particulier des historiens de l'époque contemporaine, puisqu'on aura avec nous Jean-Louis Robert ou encore Charlotte Worms. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Bonne Abolivier, Aurélie Marcet, Pierrick Mancini était avec nous à la technique et Véronique Samouinoff à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission de manière infinie. C'est extraordinaire de dire, voilà, il y a infinité. Vous avez l'éternité devant vous pour écouter cette émission, puisque désormais il n'y a plus de barrières, plus de ruptures. Désormais, elles seront disponibles tout le temps, les émissions de France Culture, depuis ce nouveau site qui a été inauguré lundi.